Bonjour à tous.
Imaginez que votre banque porte chaque matin à votre crédit 86 400 euros à dépenser le jour même. Votre solde créditeur éventuel étant annulé chaque soir. Que feriez-vous ? Vous iriez probablement tous les jours vider votre compte pour profiter au maximum de cette aubaine. Eh bien, cette banque existe et vous êtes son client. C'est la banque Temps. Chaque matin, elle met à votre disposition 86 400 précieuses secondes de vie. Chaque soir, elle considère comme perdue celle dont vous n'avez pas fait usage. Et c'est tant pis pour vous. Et aucune avance n'est consentie sur ce qui vous sera versé le lendemain. Il vous appartient donc de prendre conscience de la préciosité de chaque seconde qui vous est offerte.
Chacun le sait bien, le temps c'est l'affaire des Suisses. Et je sais de quoi je parle, je suis double national franco-suisse. Alors dites voir, entre nous, vous n'auriez pas vu passer le temps, non? On m'avait pourtant dit, prends tout ton temps, on n'est pas pressé, il n'y a pas le feu au lac. Alors j'ai pris mon temps, et le temps est venu, l'année s'est écoulée, et je n'ai pas vu le temps passer. C'est qu'avec les temps qui courent, vous en conviendrez, il passe plutôt vite le temps. L'angoisse, c'est de penser que je pourrais l'avoir perdu, mon temps. Dites voir, vous n'auriez pas vu passer le temps, non? Les jours ont succédé aux jours, les fêtes aux fêtes, les occupations ont succédé aux préoccupations, les échéances aux échéances. Alors aujourd'hui, dans ce monde fatigué, usé, éclaté, éparpillé, par une effervescence perpétuelle, dans ce monde qui n'a plus le temps, Dieu dit « Stop, arrêtez-vous, arrêtez-vous. » Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine juive, le premier jour comme au commencement. Comme au commencement, là où Dieu a désiré et façonné l'être humain, et qu'il l'a fait hôte de ce monde, hôte de cette terre. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Comme au commencement, lorsque Dieu a fait de nous les hôtes du temps. Au commencement, nous étions hôtes du temps. Et voilà que maintenant, nous en sommes devenus esclaves. Nous ne voyons plus le temps passer, et ce n'est pas nouveau. Moïse avait déjà des problèmes de temps.
Moïse prit place pour juger les querelles du peuple. Du matin au soir, des gens attendirent de pouvoir se présenter devant lui. Lorsque son beau-père, Jéthro, a vu tout ce qu'il avait à faire pour le peuple, il lui a dit « Pourquoi procèdes-tu ainsi ? Pourquoi fais-tu ce travail tout seul en obligeant les gens à attendre debout du matin au soir le moment de se présenter devant toi? C'est que les gens viennent à moi pour obtenir un jugement inspiré par Dieu, répondit Moïse. Lorsqu'ils ont une dispute à régler, ils viennent me trouver. Je tranche le cas qui les oppose et je leur fais connaître les lois et les enseignements de Dieu. » Son beau-père reprit : « Il n'est pas judicieux de procéder de cette manière. Vous allez tous vous épuiser complètement, toi et ceux qui viennent te consulter. Cette tâche est vraiment trop lourde pour toi. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Écoute donc ce que je te conseille et que Dieu soit avec toi. Ton rôle consiste à représenter le peuple devant Dieu pour lui présenter les affaires litigieuses. Tu dois aussi informer les gens des lois et des enseignements de Dieu, leur indiquer la conduite à tenir et leur dire ce qu'ils doivent faire. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur, pleins de respect pour Dieu, aimant la vérité et incorruptibles. Tu les désigneras comme responsables à la tête de groupes de 1000, de 100, de 50 ou de 10 hommes. Ce sont eux qui siégeront chaque jour pour juger les querelles du peuple. Ils te soumettront les affaires importantes, mais régleront eux-mêmes les causes mineures. De cette manière, tu pourras alléger ta tâche, puisqu'ils en partageront la responsabilité avec toi. Si tu fais cela, et si c'est bien ce que Dieu t'ordonne, tu ne t'épuiseras pas. Et de leur côté, tous ces gens pourront rentrer chez eux réconciliés. » Moïse suivit les conseils de Jéthro, son beau-père.
Au commencement, nous étions hôtes du temps. Et voilà que maintenant, nous en sommes devenus esclaves. Nous ne voyons plus le temps passer. Alors aujourd'hui, Dieu dit stop, arrêtez-vous donc. Arrêtez-vous donc, arrêtons-nous.
Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau. Et Jésus lui dit : donne-moi à boire.
Alors qu'il était épuisé, après une longue marche sous la chaleur, Jésus ne força pas son corps à continuer. S'il l'avait fait, il aurait manqué la rencontre avec la Samaritaine et avec le cœur de la Samaritaine qui avait besoin d'entendre la parole du Sauveur. Cet extrait biblique souligne l'importance d'être à l'heure de Dieu, comme Jésus. Si on est en avance ou en retard, on risque de manquer la volonté du Seigneur pour chacun ou chacune d'entre nous. Comme disent les Suisses, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, l'heure, c'est l'heure. Mais nous ne faisons que courir, de ci, de là. Nous ne faisons qu'aller et venir. Nos jours débordent d'activité, nous en faisons toujours plus. Aujourd'hui, certains ont leur journée programmée plusieurs mois à l'avance. Mais que fuyons-nous donc ? De quelle peur essayons-nous de nous distraire ? Ou bien à quelle peur essayons-nous de nous soustraire ? Quelles idoles adorons-nous pour que nous soyons ainsi devenus esclaves du temps qui passe ? En effet, c'est un bien triste monde. Certains, comme nos aînés, ont trop de temps et essayent de le tuer par tous les moyens parce que nous n'avons plus de temps à leur consacrer. Alors que d'autres n'ont plus de temps et se débattent tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'en gagner. Le burn-out est devenu presque un lot commun. Je n'ai pas le temps cette semaine. Pour moi c'est impossible. Pas le mercredi après-midi pour moi. Moi, c'est le jeudi matin qui est bloqué. Essayez donc de fixer une date de réunion à seulement 4 personnes et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Et ça, c'est du vécu en réunion d'anciens. Quand nous fixons les dates de réunion d'anciens, on a toujours de la peine à trouver une date. Voilà. Pardon, Seigneur. Voilà. Et dans les couples, c'est la même chose. Pour arriver à prendre du temps ensemble, c'est une vraie gageure. Se fixer un moment régulier, intangible, devrait pourtant être une priorité. Non ? Le Seigneur Jésus n'a pas été épargné par l'urgence des besoins et les pressions des foules qui l'entouraient. Mais il a su continuellement donner la priorité absolue à la communion intime avec le Père.
Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria.
Jésus a toujours su choisir ses priorités, tout au long de son service pour le Père, car il était en communion permanente avec lui, par la prière. Nous aussi, il nous faut apprendre à prendre du temps et à persévérer dans la prière pour mieux choisir nos priorités.
En ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient l'hébreu. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation. » Je vais remarquer que ce n'est pas des femmes, hein, c'est des hommes qui sont choisis. Remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition.
Voilà un bel exemple de choix de priorité. C'est un lieu commun que de dire qu'il nous appartient de choisir à quoi nous consacrons notre temps. Pourtant, à bien y réfléchir, il nous faut réaliser ou nous souvenir que tous nos jours sont comptés.
Le psalmiste dit « Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés, alors nous acquérons un cœur sage. »
En fait, ce que nous appelons nos jours ne nous appartiennent pas vraiment. Ce que nous appelons notre temps est en fait celui que le Seigneur nous offre chaque jour. Vous savez, ces 86 400 précieuses secondes de vie. Pour bien marquer que nous reconnaissons que ce temps nous est donné par Dieu, ne serait-il pas opportun de lui en offrir un peu en retour de ce temps ? Lui offrir de notre temps, c'est rester dans l'obéissance quand ce que le Seigneur nous demande nous coûte. Par exemple, c'est recevoir du mieux possible le visiteur qui frappe à votre porte ou qui vous appelle au téléphone, même quand il arrive pile au moment où vous installez devant votre émission de télé, votre feuilleton, documentaire ou documentaire préféré. Votre match de la Coupe du Monde de rugby ou d'un championnat de football. Ou bien encore quand vous êtes en pleine contemplation des photos et des gags de, votre réseau social préféré. En plein chat avec les copains et les copines. Sur TikTok ou autre. Lui offrir notre temps, ce n'est pas nécessairement devenir pasteur ou missionnaire. C'est rester disponible pour lire chaque jour la parole et prendre chaque jour un temps de louange et un temps de prière. Et ainsi recevoir l'amour du Seigneur et pouvoir alors le redonner au prochain, celui qu'il met sur notre route. C'est en effet le Seigneur qui est la source de l'amour. Et choisir de prier pour être guidé dans l'emploi des 86 400 précieuses secondes qui nous sont données pour la journée nous conduit inévitablement vers l'amour.
Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. Ou bien, rachetez le temps, car les jours sont mauvais.
Voilà, deux traductions. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais, en français courant. Ou bien, rachetez le temps, car les jours sont mauvais, dans la version seconde. Un pasteur de ma connaissance disait « Si je n'ai pas le temps de lire la parole et de prier le matin, c'est que je n'ai pas non plus le temps de déjeuner. » Et il s'appliquait cette contrainte à lui-même. Le temps qui passe, les temps qui courent, Dieu les connaît aussi bien que nous, puisqu'un jour, il s'est fait lui aussi l'hôte de notre temps, comme nous. Durant ces 3 années de ministère public, la montre de Jésus était toujours réglée sur celle de son Père. Aux noces de Cana, Jésus ne suit pas sa mère dans son ambition charnelle.
À un moment donné, il ne resta plus de vin. La mère de Jésus lui dit alors, « Ils n'ont plus de vin ?» Mais Jésus lui répondit, « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire ? Mon heure n'est pas encore venue. »
À ses frères qui le poussent à devancer le temps de Dieu par désir charnel de gloire, même réplique.
Le moment n'est pas encore venu pour moi. La fête juive des huttes était proche et les frères de Jésus lui dirent : Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples eux aussi voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en cachette s'il désire être connu. Puisque tu fais de telles œuvres, agis en sorte que tout le monde te voit. En effet, ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi. Pour vous, tout moment est bon. Le monde ne peut pas vous haïr. Mais il a de la haine pour moi, parce que j'atteste que ses actions sont mauvaises. Allez à la fête, vous. Moi, je ne vais pas à cette fête, parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. »
Comme nous, Jésus a connu le temps qui use. Comme nous, il a manqué de temps. Par exemple, en ce jour, au bord du lac de Galilée, où il n'avait plus même le temps de manger, ni lui, ni ses disciples.
Les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit : Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. Ils partirent donc dans la barque, seuls, vers un endroit isolé.
Le calme de Jésus, face à ses disciples stressés, ça rassure, non ? Ce temps, notre temps terrestre, est aussi devenu son temps. Ses jours aussi lui furent comptés. Le temps d'être exposé à la vindicte meurtrière de l'homme arriva. Au milieu d'inconstants, de dirigeants hostiles et de disciples sans trop de foi, portant par avance nos inconstances, nos inconsistances, nos désobéissances, nos hésitations et nos doutes, Jésus reste, par obéissance, dans le temps de Dieu. Au Golgotha, sur une croix, le temps a même cru le prendre pour toujours.
Maintenant, mon cœur est troublé. Et que dirais-je ? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure de souffrance ? Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, donne gloire à ton nom.
Mais ce jour-là, le temps qui passe ne s'est pas arrêté. Le temps a continué à passer malgré tout, malgré la mort. Il y eut un soir et il y eut un matin. Précisément un matin, le troisième jour après. Le premier matin de la semaine. Quelques femmes découvrirent le tombeau vide. Le temps avait cru le prendre. Il a dû le rendre. Alors, depuis ce matin-là, le temps n'est plus le même. Le temps a changé. Le temps nous était compté, disait-on, et notre avenir semblait joué et définitivement bouché. Mais ce jour-là, la lourde pierre qui obstruait notre temps a été roulée. C'était le matin du premier, comme aujourd'hui, le matin du premier jour. C'était un dimanche, comme aujourd'hui. Depuis ce matin-là, le dimanche n'est décidément plus un jour comme les autres. Depuis ce fameux matin, le dimanche est un jour comme une fenêtre ouverte, un jour comme une brèche. Dimanche, c'est le premier. C'est aussi un jour qui annonce un autre jour, qui anticipe le temps où Jésus règnera sur tout être qui vit et sur toute chose. Dimanche, c'est un jour comme une trace de Pâques. Un jour où nous nous rappelons que notre temps est désormais comme tissé dans le temps de Dieu. J'aime à penser que notre année, cette année, a commencé par un dimanche et se finira également par un dimanche. Vous savez, le calendrier se reproduit à l'identique tous les 14 ans. Pour attendre une nouvelle année qui commencera par un dimanche et se terminera par un dimanche, il faut attendre 14 ans après. J'aime donc à penser que cette année a commencé par un dimanche et se terminera également par un dimanche. Si le temps ne s'est pas définitivement arrêté d'ici là pour s'ouvrir sur l'éternité. Soyons sûrs que l'Esprit est intensément désireux de fortifier notre être intérieur, afin que nous soyons à même de gérer de mieux en mieux le temps que Dieu met à notre disposition ici-bas, pour bien nous préparer à une éternité merveilleuse à ses côtés. Alors il n'y aura plus d'heures à surveiller, plus d'agenda à remplir, plus de programmes à équilibrer. Ce sera le temps de la plénitude. Dimanche, aujourd'hui, dans un monde fébrile et agité, dans nos vies éparpillées et éclatées, Dieu dit stop, arrêtez-vous, arrêtons-nous. Arrêtons de courir comme si nous cherchions à nous distraire et à nous soustraire à la mort, puisque désormais, la mort n'a pas le dernier mot sur notre vie. Notre Dieu, lui, est le maître du temps. Je veux parler du vrai maître du temps, pas celui de Fort Boyard. Le prophète Daniel a dit
« Remercions Dieu en tout temps, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse les rois ou les établit. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents et qui révèle les secrets les plus mystérieux. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille à ses côtés. »
À ceux qui étaient réunis auprès de Jésus et qui lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. » Dieu est le maître du temps. Tout au long de la Bible, de la création à la croix, et de la croix à l'heure de son retour, nous pouvons voir comment notre Seigneur travaille avec le temps, comment il réalise chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Un temps pour chaque chose, dit l'Ecclésiaste. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu porte chaque matin à votre crédit 86 400 précieuses secondes, soit 24 heures, à dépenser le jour même, votre solde créditeur éventuel étant annulé chaque soir. Qu'allez-vous en faire ? Pourquoi ne pas commencer par offrir au Seigneur la dîme de notre temps, soit 8 640 secondes, ou encore 2 24 heures par jour ? Et n'oublions pas que notre temps passe vite. N'attendons pas à demain. Comme dit le Saint-Esprit, si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre. Comme lorsque vous vous êtes révolté contre lui, le jour où vous l'avez mis à l'épreuve dans le désert. Nous trouvons ce texte dans l'Épître aux Hébreux. Et Dieu fixe de nouveau un jour appelé aujourd'hui. Si vous entendez la voix de Dieu aujourd'hui, ne refusez pas de comprendre, toujours dans les Hébreux. Le temps, ce n'est pas de l'argent, c'est de l'amour. L'amour que le Père nous donne pour le redonner à notre tour. Et n'oublions pas que l'amour est la seule chose qui grandit quand on le partage. Rachetons le temps en donnant de l'amour. Prions. Seigneur, apprends-moi à bien user du temps que tu me donnes et à bien l'employer sans rien en perdre. Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. Que ton esprit conduise chacun, Seigneur, à travers les joies et les peines de la vie, en étant persuadé que chaque événement est dans le temps, et dans ton temps, Seigneur, dans le temps de Dieu. Nous voulons te louer, Seigneur, pour le temps que tu nous donnes. Amen.
Amen.